Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Thibaut.
Salut.
Comment ça va?
Ouais, ça va, et toi?
Bah écoute, super bien. Écoute, je suis trop content d'être là aujourd'hui. Premier séjour à Besançon, tu vois, tu me fais découvrir. Donc, je te remercie pour cette petite escapade, tu vois, qui me fait du bien et qui me fait quitter l'air parisien.
Bah oui, plaisir. Les gens connaissent pas trop Besançon, mais ils sont toujours contents d'y atterrir, donc c'est chouette.
Eh ben, écoute, je te confirme, franchement, J'ai bien aimé la vue est sortie de la gare, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
On voit les montagnes, le joli parc et tout, donc très cool. Toi, ça fait une dizaine d'années que tu y es, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça fait 12 ans. Je suis arrivé après le lycée pour mes études. Je suis resté parce qu'on s'y sent bien, que c'est familial, le cadre est cool. Voilà, c'est une ville paisible. Et puis pour le sport outdoor, c'est parfait. Donc voilà, c'est une belle page de ma vie.
Okay.
Je sais pas où j'irai après, mais en tout cas, je suis pas mal en ce moment ici.
Ok, très cool. En plus, il y a vu sur la piste d'athlée, là, presque. Ouais. Tu fais un peu de frac de temps en temps sur cette piste ou pas?
J'ai juste fait en bas. Beaucoup, et depuis que j'habite ici, beaucoup moins.
Ouais.
Je sais pas si mon coach a dit, ah non, il est trop près de la piste, ça va pas. Mais non, c'est vrai que de temps en temps, j'y vais, mais c'est une partie de mon entraînement que je fais un peu moins maintenant. J'ai développé pas mal mes qualités de vitesse il y a quelques années parce que ça pêchait un peu. Mais c'est vrai que maintenant, j'y vais un peu moins sur cette piste. Mais oui, je suis en plein milieu du centre, du complexe sportif. Donc, entre le stade de foot, la piscine, le stade d'athlée, on est pas
là. Ouais, t'es bien entouré, ouais. Il y a beaucoup d'autres athlètes de haut niveau sur Besançon? T'en connais quelques-uns?
Ouais, il y a pas mal d'athlètes, un peu dans tous les sports. Triathlètes, vélo de route, notamment chez les féminines. Il y a Juliette Labousse, qui a représenté la France au JO sur le chrono et en ligne. On a une équipe de hand féminine qui est en Ligue 1, en D1. Donc ouais, ça brasse pas mal.
Ok. Bon, bah cool.
Mais de plus en plus sur des sports outdoor. C'est vrai qu'il y a aussi le cyclisme avec Romain Grégoire et tout le pôle espoir, la FDJ, la Continentale qui est ici. Donc ouais. C'est vrai que du sportif, c'est pas ce qui manque. Non.
T'es bien entouré du coup. Ouais. C'est inspirant, je sais pas, vous rencontrez de temps en temps ou vous faites des choses ensemble?
Bah, on se suit beaucoup via les réseaux. Après, c'est sûr que de se rencontrer en physique, c'est pas toujours évident.
Ouais.
Mais là, la semaine dernière, j'ai roulé avec Fabien Doubé, tu vois, qui est Team Total Energy. Voilà, on se croise de temps en temps. Après, c'est vrai qu'avec les calendriers et nos rythmes de vie respectifs, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on s'inspire de ce qu'on voit et de ce qu'on peut entendre aussi.
Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, merci de me recevoir sur cette terre de sport que je ne connaissais pas encore, mais que je prends plaisir à découvrir. Comme je te le disais, tu vois, j'aime bien commencer par l'enfance, même si toi, je sais que tu l'as déjà beaucoup raconté, même si j'ai quelques questions un peu inédites, on va essayer de faire nouveau. La première question que j'aime bien poser, c'est quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, je sais pas si c'est un souvenir en tête ou c'est parce que j'ai la vidéo. Tu vois, c'est un âge où tu sais pas trop d'où vient le souvenir, mais j'ai une vidéo en fait où j'ai 3 ans, mon frère vient de naître et on est en vacances avec mes parents et mon père, qui était un bon coureur de montagne à l'époque, courait autour de la piste et j'ai 3 ans et je vais courir avec lui en fait. Je fais l'échauffement avec lui et je cours, tu vois, à 3 ans, donc t'es pas bien haut avec ton petit short, et je pars courir autour de la piste avec mon père. Donc je crois que j'ai pas vraiment la mémoire sensorielle du truc, mais de le voir en vidéo, du coup, ça m'a marqué forcément.
Ouais, ça te rappelle quelque chose quand même. Tu
ouais,
vois.
Ouais, c'est
une sensation de l'avoir vécu.
Quoi, voilà. Ouais. Et sinon, des premiers souvenirs vraiment de sport, c'est plus j'ai toujours été en campagne en fait, gamin. Et puis bah le soir, on allait dehors quoi, jouer. Tu vois, on restait pas devant la télé. On faisait les devoirs, puis après on sortait. Donc c'était bah, des heures dehors en forêt, des heures sur le vélo, le VTT, aller chez les copains, tu vois, aller dans la forêt, revenir, partir à fond, à faire un peu n'importe quoi avec le vélo. Et puis jouer au foot dans le jardin, faire des cages, des tirs jusqu'à ce que tu vois plus le soir. Donc voilà, c'est en fait plein de souvenirs d'extérieur. Et on appelait, enfin si, forcément, quand tu allais au foot, c'était du sport, mais... Ouais. Quand j'étais monté sur mon VTT pour aller voir les copains, aller dans la forêt, machin, c'était juste être dehors et s'amuser. Ouais, c'est des beaux moments et c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je fais du sport outdoor.
T'avais beaucoup d'énergie à revendre?
Ouais, j'étais pas forcément turbulent ou, tu vois, hyper actif, mais j'aimais bien être dehors et j'aimais bien me dépenser, ouais, déjà.
Et donc, t'avais l'exemple de papa sur le trail? C'est un truc qui t'a tenté vite ou...
Ouais, mon père a fait de la course de montagne plus jeune.
Alors, quelle est la différence entre course de montagne et trail?
On appelait juste pas ça du trail, quoi.
Ouais,
mais c'était plus des courses courtes, tu vois, en montagne, juste la simple ascension ou des courses plus courtes. En tout cas, il partait rarement pour faire des 40 bornes. Donc, il en a fait un peu, mais pas tellement quand j'étais ado, tu vois. C'était plutôt quand j'étais tout petit. Et après, on a fait du ski ensemble, j'ai été au foot, il était souvent, mes parents étaient très proches. Mais c'est pas forcément lui qui faisait de la compète, qui m'a donné envie de faire de la compète.
Lui, il était compétitif?
Bon, oui, il a eu quelques dossards à l'époque, notamment à Cierzinal, quelques courses de montagne en Haute-Savoie. Mais voilà, c'est pas forcément, j'ai pas eu l'exemple d'un père ultra compétitif qui m'a, tu vois, j'ai pas été poussé par ça.
Voilà, je te vois toujours pas comme quelqu'un de très compétitif.
Ouais.
Peut-être que tu l'es, mais moi je te vois pas comme ça en tout cas. Je trouve que c'est pas ce que tu dégages, tu vois.
Ouais, je pense que je suis, bah, dans la vie de tous les jours, tu vois, je c'est pas le mon but premier, c'est pas d'être premier, tu vois, d'être premier partout, etc. Donc la compète, en fait, j'adore ça au fond de moi, c'est ce qui me fait avancer. Bah l'entraînement, etc. J'adore ce côté compétitif, dossard, etc. Mais à l'extérieur, je suis plutôt quelqu'un relax et je vais pas faire la compète surtout partout, quoi. Mais c'est vrai que dans le sport et dans mon sport, c'est quelque chose qui me tire quand même vers le haut.
Ouais, et t'as pas du tout le côté un peu, enfin le mauvais côté de la compète où tu veux un peu écraser les autres, ou tu vois, que tu peux retrouver un peu chez les athlètes un peu à l'américaine, ouais, ou un peu à la russe, tu vois, un peu dur. Toi, c'est plutôt la compète avec toi-même qui te drive, qui te motive.
Ouais, c'est vraiment de pousser ses limites, tu vois, repousser ses limites, aller chercher le maximum de ce que tu peux faire, que ce soit sur un entraînement ou une compétition. Forcément, en compétition, tu te transcendes et tu vas encore plus loin. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de mettre un dossard, d'être avec les copains et de se fighter sur le terrain. Mais dire si c'est mon pote qui gagne, je vais être tout aussi content que si c'est moi, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est de mettre un dossard, de se donner à fond. Mais à la fin, voilà, c'est le jeu du sport, c'est le jeu de la compétition. Tu peux pas toujours gagner, donc c'est pas pour ça qu'on va faire la gueule derrière ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour partager avec les copains et aller faire une course tout seul à l'autre bout de la France pour aller gagner tout seul, etc. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Je préfère être par ici avec beaucoup plus de niveau et me battre à fond, se donner à bloc, ressentir des nouvelles choses et puis partager tout ça avec les copains.
Ouais, ouais, je vois. Et tu penses que c'est un peu lié aussi au format un peu du trail où il y a tellement de paramètres extérieurs, tu vois, que c'est vachement difficile de se pointer sur une course et se dire allez, c'est sûr que je vais gagner, quoi.
Ah bah ouais,
enfin,
ouais.
Sur les grosses courses, en tout cas. C'est peu prédictible aussi, tu vois. Donc, il faut de la source de plaisir, elle doit venir d'ailleurs.
Bah, complètement. Faut être humble face à nos courses et à ce qui nous attend, quoi. Parce qu'en trail, même si sur le papier, t'es le meilleur, bah oui, comme tu dis, là, ta gestion de course va rentrer en jeu, la météo va rentrer en jeu, la forme du moment rentre en jeu. C'est pas parce que le mec t'a mis 10 minutes il y a un mois qu'il va te les remettre aujourd'hui. Et c'est vrai que ça diffère un peu de ce que tu peux retrouver sur la piste ou quoi. Le mec, il a un RP tu prends un 10 000 mètres et il a un RP de 2 minutes devant. Bon, bah, il y a peu de chances que tu le suives.
Ouais.
Alors que nous, le mec qui te met 5 minutes sur un marathon, bah, le marathon suivant, ça se trouve, c'est toi qui vas lui en mettre 5 minutes.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et il faut rester vachement humble par rapport à tout ça. Bon, après, c'est sûr que quand t'as gagné quelques belles courses, bon bah t'es plus attendu, t'es plus suivi, mais faut pas se dire la course elle est gagnée d'avance, quoi, ça marche jamais.
Ouais, mais il y a un petit côté hasard ou en tout cas sensibilité aux événements extérieurs, tu vois, qui est vachement plaisant, tu vois. Même les coureurs les plus expérimentés, tu peux avoir une certaine appréhension quand tu démarres une course, que tu sais pas comment tu vas réagir aujourd'hui, peut-être à la chaleur ou au rythme un peu plus soutenu que d'habitude. Tu vois, il y a un côté un peu impalpable, tu vois, qui est vachement romantique, je trouve, dans le trail. Je sais pas si toi tu le perçois comme ça.
Ouais, mais si, complètement. Ça fait vraiment le charme de la course, quoi. C'est que au départ d'une course, et plus t'allonges à distance, plus ça va être le cas. Tout peut arriver, quoi. C'est pas parce que, voilà, encore une fois, le mec, il t'a battu la veille qu'il va te battre aujourd'hui. Et t'as cette part, ouais, d'imprévisible qui va faire que la course, elle va pouvoir peut-être tout changer en une heure de temps. Avec le scénario, il va évoluer. Et oui, c'est super chouette. Et à suivre et à vivre, quoi.
Il y avait ça un peu dans le ski de fond, où c'est beaucoup plus prédictible comme sport et beaucoup plus.
Bah, dans le ski, t'as la part de glisse qui va faire que ça peut très bien marcher comme moins bien marcher, mais un peu moins quand même, quoi. Tu vois, si la météo évolue, bon, bah, t'es en conditions hivernales, tout le monde est prêt à ce que ce soit les conditions hivernales. Ça va pas. Puis les courses sont courtes, tu vois, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Bon, bah, t'as pas de gros chamboulements. Ça peut arriver sur certaines courses, mais voilà. Quand t'es au départ d'un 15 km skate individuel, tu connais les gros noms. Le gars qui a jamais fait de top 30, il va pas aller taper un podium, quoi. Ça, c'est quasi certain.
Ouais.
Donc, t'as moins de gestion. Enfin, il y a de la gestion, mais dire ça va pas tout chambouler, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que même le gars qui part très vite, il va jamais prendre 5 minutes d'avance et il va pas en prendre 5 à l'arrivée. Donc,
ouais.
T'as ce côté, comme tu dis, non palpable et et imprévisible qui est vraiment chouette dans cette discipline-là.
Tu prenais du plaisir, toi, quand t'as commencé sur le ski de fond? C'est un sport fun, tu vois, où je me suis posé la question, parce que je connais très peu. Alors forcément, tu vois, je, en tant que passionné de sport, je vais aller regarder le biathlon, le ski de fond, les courses, tu vois, notamment parce qu'on a, il y a quand même, depuis 20 ans, 30 ans, on a des générations prodigieuses, tu vois, qui s'enchaînent les unes les autres. On a l'impression que ça marche toujours. Toi, avec ton regard extérieur, est-ce que c'est un sport dans lequel tu prenais du plaisir étant plus jeune, ou est-ce que c'était peut-être aussi trop compliqué de percer au très très haut niveau?
Ouais, si, si, je pense du plaisir, j'en ai pris, sinon j'en aurais pas fait pendant plus de 12 ans. Puis quand t'es gosse, bon, après j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs vraiment sympas aussi, c'est que tu vas pas faire du ski, quoi, tu vas t'amuser déjà sur le ski. Et tu fais des jeux, et tu fais du hors-piste, et tu vois, tu passes 2 heures, mais tu fais pas 2 heures à skier non-stop, à faire de la technique, etc. quoi. L'idée quand t'es jeune, c'est de t'amuser, tenir sur les skis. Tu fais des loups, tu fais des machins, tu fais des touches-touches sur les skis, tu vois, tu faut que ce soit fun. Et puis après, il arrive un moment où forcément la compétition prend tout doucement un peu plus de place et il faut une préparation un peu plus importante. Mais du coup, tu sais très bien skier à ce moment-là. Et puis, bah, ça devient vraiment plaisant, quoi, avec la glisse, avec cette sensation de liberté que tu peux avoir en montagne. T'as des fois des étendues sur des kilomètres où t'es tout seul à skier. Tu prends un plaisir fou. Après, ça reste un sport exigeant, qui demande de la préparation, estivale, automnale, pour être là l'hiver. Donc, il faut être rigoureux, il faut quand même s'astreindre à une certaine régularité. Mais c'est un sport qui est individuel, mais aussi qui est pratiqué en équipe. C'est-à-dire que t'es toujours dans un groupe. Tu vois, je me suis jamais entraîné seul, tu vois, en ski. Donc, du coup, t'as cette émulation de groupe qui, quand t'es en cadet, jeune, tu vois, début de lycée, qui est exceptionnel, parce que tu vis ensemble à l'internat, tu fais tes stages ensemble, tu vas sur les courses ensemble. Donc, en fait, c'est...
T'as la camaraderie qui est là. Et qui
ouais,
est
c'est
cool.
Ça, c'est une équipe, quoi. Tu vois, c'est comme presque comme une équipe de hand ou de foot qui se déplace. Après, c'est sûr que le jour de match, enfin, le jour de course, c'est chacun pour soi. Mais t'as quand même cet effet d'équipe qui est formidable et qui pousse tout le monde à continuer et aller vers le haut.
Ouais, t'as la part d'insouciance jeune qui fait que tout se passe super bien, quoi.
Ouais, c'est ça.
Les embrouilles, elles peuvent arriver avec les histoires d'adultes, entre guillemets.
Ouais, c'est quand j'étais en sport-études, t'es au lycée, donc t'as tes cours le matin, tu t'entraînes l'après-midi, tu vas sur les compètes. L'hiver, on n'avait pas cours, on faisait que du ski, donc t'es dans ton rythme, t'es avec les copains, ça enchaîne. Moi, ça marchait plutôt bien les résultats, les sélections et tout, donc... c'est que du plaisir. Forcément, tu passes par des moments plus durs, c'est des moments de fatigue, etc. Mais ça, c'est juste le sport. Mais non, ça a toujours été super fun de retrouver tout le monde sur les courses. Enfin, j'ai jamais vécu ça comme un sport, tu vois, où je suis forcé à y aller, forcé à m'entraîner. Comme depuis tout petit, je suis dehors et que je fais des sports outdoor,
c'est parfait.
C'était la continuité, quoi.
Et toi qui as fait plein de compétitions internationales, junior, je sais pas si t'en as fait au niveau senior, mais t'en as fait plein, tu vois, t'as goûté à ça, tu vois, t'as goûté ce haut niveau, entre guillemets, tu vois, où le sport se professionnalise, où t'as les sélections et tout. Pourquoi t'as fait le choix de pas y aller? Parce que moi, de mon regard extérieur, c'était presque tout bon, tu vois. La vie du petit Thibaut, elle était presque tracée pour je sais pas, aller performer sur ce sport-là.
Ouais, c'est sûr que... J'avais tous les voyants qui étaient au vert pour continuer. Ma dernière année de junior, donc l'année où je passe mon bac, je fais la meilleure année, ma meilleure année. Je fais des derniers championnats de France, mes meilleurs championnats de France. Il y avait tout pour continuer. Après, le seul hic, c'était que je voulais pas faire... Déjà, être professionnel en ski de fond, c'est dur. Pour trouver des contrats, et, tu vois, pour trouver un partenariat soit avec l'armée, soit avec les douanes. Donc en fait, je voyais pas mal de gars galérer à juste vivre de leur sport et puis faire des études qui m'intéressaient pas. Enfin, je voulais pas faire une fac de bio en 6 ans, je voulais pas faire une école un IUT Tech de Co à Annecy juste pour skier l'hiver et tu vois avoir à la fin un truc de commerce qui m'intéressait pas du tout. Et il y avait pas tellement de filières études sup qui m'intéressaient où je pouvais continuer le ski. J'ai fait le choix d'arrêter le ski. Ouais. Pour faire kiné.
C'est un choix hyper radical, non ?
Ouais, ça l'a été. Ça l'a été, mais je me suis dit, voilà, j'ai fait des belles années de ski, j'ai bien profité. Maintenant, j'ai aussi envie de découvrir autre chose et puis d'avoir un avenir un peu plus certain, quoi. Et puis le métier de kiné me plaisait bien, et l'idée que j'avais, c'était de passer mon diplôme de kiné pour retrouver le sport de haut niveau derrière,
okay.
En tant que kiné.
Donc c'était prévu quand même.
Ouais, c'était le projet que j'avais, en tout cas sur les 5-6 années que j'avais devant moi. J'ai dit, je quitte le sport de haut niveau, j'ai quand même plein de contacts en ski. Si je passe mon école de kiné et tout, pourquoi pas refaire kiné derrière pour les skieurs, tu vois, ouais. Qui seront finalement de ma génération, parce qu'eux, ils vont grandir, ils vont évoluer, et le temps qu'ils arrivent en équipe de France et se fassent leur place, ça sera les mêmes que ceux que je côtoie actuellement, quoi. Donc ouais, c'était le projet à cette époque-là, et puis je regrette pas. Enfin voilà, j'y suis allé, je savais ce que je voulais, et puis voilà. Après, c'est sûr que être sportif de haut niveau, c'était un rêve, gamin.
C'était ton rêve, ouais.
Ouais, tu vois, j'ai toujours aimé la compétition, j'ai fait un peu de vélo aussi, de cycliste sur route. Et moi, être pro, c'était un truc qui faisait rêver, quoi. Donc, que ce soit à vélo, à ski, dans un sport. Si le foot avait marché, j'ai fait aussi 10 ans de foot, où j'ai pas continué assez loin pour jouer des sélections et tout, mais je sais que ça marchait pas trop mal. Pourquoi, tu vois, j'aurais très bien pu faire footballeur, quoi, si c'était arrivé comme ça. Mais oui, c'est vivre du sport, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, quoi.
Okay.
Qui me faisait rêver. Et du coup, quand j'ai quitté le bac, je me suis dit, tu vivras peut-être pas du sport directement par le sport, mais pourquoi pas y intégrer, intégrer le sport par un autre levier, quoi.
À quel point c'est dur de se dire ça pour un gamin qui rêve de sport, quoi. Enfin, ça doit être vachement violent, quoi, de renoncer à son rêve.
Ouais, après, j'avais fait des belles années quand même sur les skis, et puis je savais que j'avais un potentiel intéressant, mais voilà, voir les gars galérer, en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était super dur et que c'était pas certain que j'y arrive, et que j'avais aussi envie d'autre chose, de découvrir autre chose, découvrir la vraie vie étudiante, voir un autre milieu que celui du ski. Et puis c'était un métier qui m'attirait, j'avais côtoyé pas mal de kinés, donc même si c'était un rêve de gamin d'être pro, je me suis dit, si un jour je suis kiné d'une équipe pro, ça sera quasi mieux, quoi. C'est-à-dire que tu vis le truc avec eux, et tu fais partie de la performance, et puis à côté t'as un vrai boulot, t'as un job que tu peux faire et avec les athlètes et en dehors. Et voilà, j'ai switché un peu là-dessus, et je me suis dit que ça serait top d'un jour pouvoir le faire.
Mais trop cool que t'aies trouvé cette voie, en fait, tu vois, et parce que ça t'a permis de quand même vachement bien, enfin, ça t'a bien dirigé dans la vie, en tout cas c'était un bon choix, quoi.
Non, mais je regrette pas du tout. Je me suis donné. Quand je me lance dans quelque chose, je me donne à fond. Je veux dire, je vais pas faire les choses à moitié, quoi. Je vais pas dire, tiens, je vais faire ça. Puis en fait, je le laisse de côté, ou je fais pas trop. Si je me lance dedans, je le fais à fond. Et quand je suis rentré en école de médecine, je me suis mis en mode sportif de haut niveau, mais de des cours, quoi. Tu vois.
Ouais.
Donc j'étais à bloc, je faisais que bosser pendant 8 mois. J'ai fait que bosser. En fait, j'ai retranscrit.
T'as réussi.
Ouais, j'ai retranscrit ce que je faisais à ski ou en sport aux études, quoi. Il y avait un concours de médecine. Le concours, c'est ta compétition. Tu prépares ta compétition et tu t'entraînes. Je m'entraînais, je révisais, quoi. Je faisais un cours le matin, révision après. Et pendant 8-9 mois, j'ai fait que ça, quoi. Et j'ai réussi mon concours. J'ai très bien réussi la première année. Donc après, j'ai intégré l'école de kiné. Et puis après, ça a roulé plus facilement.
Mais c'est ça, en fait. J'ai été un peu surpris parce que, tu vois, j'avais vu que tu avais effectivement eu des bons résultats de scolairement parlant, on va dire. Et j'ai vu des titres d'articles du genre de jeunes branleurs au gars cool qui fait du trail ou des trucs comme ça. Et des fois, on essaye de te coller un peu l'image du mec un peu dilettante ou qui bossait pas beaucoup, mais alors que j'ai l'impression que t'es hyper driven, tu vois, comme disent les Anglais. Quand t'as un objectif, tu fais tout pour y arriver.
Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Ce titre d'article là, qui est sorti d'ailleurs il y a 2 jours.
Il est récent. J'en ai vu d'autres, des trucs comme ça.
Il est grave récent. Et c'est mon coach qui parle de moi. Et quand j'ai commencé le trail, c'est sûr que j'étais dans mes études de kiné. Enfin, voilà, je voulais pas en faire ma vie, tu vois. C'était pas l'idée. Donc, il y a 12 ans. Donc, forcément, j'étais un peu le gars cool. Je vrillais Enfin, tu vois, je faisais la fête, j'étais étudiant, j'ai profité de ma vie étudiante. Donc, c'est pour ça qu'il disait que j'étais un jeune branleur, mais en vrai, J'ai toujours respecté les plannings d'entraînement, etc. J'ai toujours eu une rigueur en sport.
Ouais.
Je pense qu'il y a une de mes forces, mais...
C'est naturel pour toi d'être rigoureux comme ça?
Ouais, je l'ai toujours été, en fait. En tout cas, à l'entraînement, tu vois. J'ai toujours eu un coach avec le ski, que ce soit le foot ou le ski. Et j'ai toujours respecté à la lettre ce qu'il me disait. Et pour moi, c'était important de... Bon, je me détache de cette partie-là, mais je la fais à fond, quoi. Encore une fois, si je me lance dans un truc, je le fais à fond. Et si j'ai un coach aujourd'hui, c'est pas pour qu'il me donne des séances, c'est que je les fasse à moitié ou que je change, tu vois, l'ordre des trucs, enfin, que je fasse à ma sauce, quoi. Sinon, je le fais pas.
Enfin, c'est ton entraîneur qui ose et qui aime bien te coller la casquette de... C'est Christophe, c'est ça?
Christophe Malardé, ouais.
Ouais, j'ai interviewé cet automne, ouais, du coup.
Trop bien.
On avait bien fité, il était super, super sympa.
Ouais, ouais, c'est un super
gars. On a gardé contact depuis, donc.
Ouais, excellent.
Très cool. Là, ça fait 10 ans que tu bosses avec lui?
Ouais, bah, pour continuer un peu sur le fil du truc, je passe mon concours de médecine, puis après, je rentre à l'école de kiné en 2010. Bon, je me remets à courir parce que c'est le sport facile que je pratiquais déjà sur mes entraînements estivaux, tonneaux, et voilà, ça faisait partie intégrante de la préparation pour l'hiver, pour le ski. Donc ici, je me remets à courir, c'était, tu vois, c'est facile, j'habite en centre-ville, t'as les collines, là, tu le vois bien, direct. Et puis, j'ai commencé à rencontrer un peu des gens qui couraient, et puis ils m'ont dit, bah, tiens, viens sur une compète, dimanche, on va là, dans le Vaudou, machin, j'y vais. Puis je fais une première compète, j'ai pas remis de dossard depuis quasi 2 ans. Puis j'avais jamais couru en compétition, quoi. On faisait beaucoup de chrono à pied, tu vois, on avait des tests, etc. en tant que skieur. Donc j'aimais déjà bien ça quand il y avait ces chronos-là, ou les intervalles à pied. Mais j'avais jamais mis un dossard, quoi. Et puis je fais deuxième sur la course, c'était un 17 bornes, la Pierre Fontaine-Lévaran. Et puis voilà, ça a été un peu l'engrenage après. J'ai mis le pied dans l'engrenage à ce moment-là.
Piqué par le virus.
Ouais.
Du...
Je fais, tu vois, ça devait être en avril. Et puis en juin, je fais un premier marathon à Faverges, alors que je connaissais pas
du tout la
distance. Non, en montagne.
En montagne, ouais.
En montagne. Et puis après, j'ai fait une Saint-Élion en fin d'année, mais j'étais pas du tout prêt à ça. Enfin, tu sais, un peu l'engrenage des copains, quoi, tu vois. Ouais,
toujours
j'étais
plus
avec
loin,
le team Endurance Shop Besançon, ils inscrivaient là, ouais, on fait tous la Saint-Élion, viens avec nous. Je suis bon, allez, vas-y, je m'inscris. En fait, j'ai explosé complet sur la course, il y avait de la neige, j'ai crampé, enfin bref. c'était assez drôle. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, ça me plaît bien, l'ambiance me plaît bien, le sport aussi. En 2011, je vais essayer de faire des courses régionales. Tu vois, il y a tout un circuit ici, un calendrier. Et puis, je m'en étais coché quelques-unes. Et puis, je m'entraînais un peu avec le groupe ici. Et puis, bah, voilà, j'ai couru beaucoup plus régulièrement jusqu'au marathon du Mont Blanc en 2011.
Ouais.
Qui me permet de, je fais 8e et ça me permet, en fait, d'accéder à la sélection Salomon en septembre. Où je suis sélectionné, je rentre dans le team Espoir Salomon, et c'est là le début de la collaboration avec Christophe. Okay. Parce qu'en fait, le deal, c'était que les 4 meilleurs jeunes sélectionnés rentrent dans le team Espoir, sur cette sélection-là à Talloir, et sont drivés par Chris pour l'entraînement, et Jean-Michel Fort-Vincent pour le management. Et puis, voilà, on était un peu la réserve du team élite qu'il y avait à l'époque, avec... déjà François, Julien Chaurier, Thomas Laure Blanchet, les grands noms du trail à ce moment-là, quoi.
Bien sûr, ouais. À ce moment-là, ça devient un peu réalité, le rêve de gosse qui veut être sportif de haut niveau ou pas?
Moi, pas trop, en fait. Je l'ai plus pris comme une opportunité à faire autre chose. Ouais, j'étais encore... je suis en deuxième année de kiné à ce moment-là. Donc voilà, je suis dans mes études. L'idée, c'est quand même d'avoir mon diplôme d'abord. Et continuer à profiter de la vie étudiante. Et puis, ouais, j'ai cette opportunité-là. Je me dis, bah voilà, saisis-la et puis on verra où ça nous mène. Si ça me plaît pas dans 2 ans, j'arrête. Si j'ai trop de contraintes, j'arrête. Puis en fait, au fur et à mesure, voilà, ça me plaît. L'entraînement avec Chris, je retrouve un entraîneur que j'avais plus depuis les 2 dernières années.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ça me met un cadre, ça me permet d'avancer, de découvrir des choses que moi, la course à pied, je connais pas, en fait, à cette époque. Enfin, j'ai à peine un an de pratique solo. Et sinon, je me suis jamais entraîné, j'ai jamais fait de fractionner, on en faisait un tout petit peu avant, mais c'est toujours un peu les mêmes séances. J'ai jamais fait de piste, j'ai jamais fait de gamme. Tout est nouveau, donc c'est chouette, toi. Tu découvres un nouveau sport, tu découvres plein de gens, tu découvres des courses. Je commence à bouger un petit peu en France grâce au team. On se fait inviter, on fait des stages. Donc c'est tout nouveau. Donc voilà. Je me suis jamais dit tiens, je rentre dans ce team-là, je veux être pro, quoi. À l'époque, il y avait quasiment pas de pro, voire pas du tout. Tout le monde avait un boulot. C'était souvent kiné d'ailleurs, mais kiné ou prof de sport ou tu vois des jobs où tu te dégages quand même du temps facilement. Mais ouais, c'était pas l'objectif, c'était pas de devenir pro, quoi.
Okay.
Je suis rentré en 2011.
Et à quel moment ça devient réalité du coup? C'est le moment où tu t'arrêtes complètement kiné ou tu y as pensé avant? J'ai l'impression que la transition avant de passer 100% à ton activité de trailer, elle a été quand même mûrement réfléchie, bien préparée et travaillée avec le temps. Tu disais que tu voyais des skieurs bien galérer, mais le trail, c'est pas non plus réputé pour être le sport dont tu vis le mieux non plus, tu vois.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'au début, j'ai mon diplôme en 2012 de kiné. Et puis, faut bosser, quoi, tu vois. T'as ton diplôme en avant. Donc, je commence à travailler. Mais j'avais aussi la course à pied qui me prenait un peu de temps. Donc, je me suis dit, je vais trouver un job ici, une place dans un cabinet qui me permet d'être assez souple, de m'entraîner, mais de bosser correctement aussi. Donc, j'avais trouvé
Parce que moi, j'avais des potes kinés qui bossent comme des ânes.
Hein. Ah oui, mais non, mais tu peux bosser comme un âne de 8h à 20h tous les jours, si tu veux.
Ouais.
Après, moi, c'était pas ma conception du tout du travail, tu vois. Travailler pour vivre, bien gagner sa vie, ok. Mais si c'est pour surgagner sa vie et pas en profiter, surtout quand t'es jeune, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, je bossais, toi, au début, j'ai commencé à travailler, je bossais quand même entre 35 et 40 heures. Donc classique quoi, et je m'entraînais à côté, sauf qu'au bout d'un moment j'avais de plus en plus de sollicitations, je faisais de plus en plus de courses un peu éloignées, donc tu commences à avoir de la fatigue qui s'accumule. Donc en fait j'ai tranquillement diminué mon temps de travail, et en 2016 je fais une super saison, je gagne 16 courses je crois, tu vois, de janvier à décembre.
Wow.
Et au milieu je me blesse, mais je me blesse parce qu'en fait je travaille, je m'entraîne à fond, je voyage, et en fait j'accumule de la fatigue, je me blesse, mais après je reviens très vite en fait, et puis
les bouteilles de champagne quand on gagne les courses.
C'est un peu ça quoi. Tu sais, t'as quand même les copains ici et tout. Donc en 2016 ça a été un peu le déclic quoi, je fais une grosse saison. Forcément, je commence à avoir un peu des partenaires. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens formidables ici à Besançon qui commencent à m'aider financièrement avec leur entreprise, tu vois, simplement pour m'aider et continuer à faire ce que je fais. Du coup, j'arrive à diminuer un peu mon temps de travail parce que j'ai aussi des partenaires qui me suivent. Et petit à petit, en fait, la balance, elle s'est inversée. Donc, je bossais de moins en moins et je gagnais un peu plus avec le trail. Et en 2017, je me dis, j'ai bien travaillé ces 5 dernières années, j'ai un peu de sous de côté et j'arrive à gagner de l'argent avec le trail. J'ai des partenaires qui commencent à me suivre et les contrats commencent à évoluer. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc fin 2017, je me renseigne durant l'année, tu vois, sur la structure que je pourrais avoir, sur qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'athlète, tu vois, perso. Ouais.
Et t'as fait quoi du coup? C'était quoi tes premiers moves?
En fait, j'arrête la kiné. Courant 2018 au printemps, quoi, en gros. Et j'ouvre ma structure perso, quoi. J'ai une URL, tu vois, une société perso d'athlètes. Et puis après, j'ai continué sur ce que je faisais avant, quoi. Mais je fais forcément plus d'activation, plus de stages. J'ai des contrats plus intéressants, mais aussi, du coup, je partage plus avec les marques, je fais du développement, on fait des week-ends, on fait des activations avec des marques. Donc ce que je faisais en fait tout le temps où j'étais pris au cabinet, c'est du temps que je pouvais pas consacrer à tout ça avant.
Et là tu t'es dit j'y vais à fond et
voilà, je me lance.
Le calcul que si tu y allais à fond, tu pouvais en vivre et
sur la première année, je me dis avec les contrats que j'ai là, je peux au moins faire une année.
Ouais.
Fais cette année à fond et puis vois comment ça évolue l'année suivante et jusqu'où on peut aller quoi.
Trop bien.
D'ici dans 2 ans, je dois fermer l'entreprise, reprendre kiné, j'aurais pas eu de regrets, quoi. J'aurais pas eu de regrets. Il y a eu un moment, il fallait se poser la question sur est-ce que vraiment j'ai envie de continuer la kiné et délaisser, pas mettre tout ce temps qui pourrait être dispo à la course à pied ou garder ce rythme entre les deux.
Mais tu vois, je trouve, tu vois, cette transition hyper inspirante parce que j'ai l'impression que tu as petit à petit à posé les pions de ce que tu voulais faire. Mmh. Il y a toujours, tu vois, une part de talent, d'athlète et que tu vois, peut-être tout le monde ne pourrait pas le faire, mais c'est ce que tu voulais et tu as posé les pions et tu l'as fait intelligemment, tu vois, sans te mettre non plus en danger, tu t'es renseigné et c'est passé quoi.
Donc, ouais. J'ai laissé faire les choses, tu vois. Mmh. J'avais pas d'objectif fixé à. Quand je commence le trail, 5 ans après, je devais arrêter de travailler, tu vois. Je pense que si j'avais été dans cette optique-là, ça aurait peut-être pas marché aussi bien. C'est-à-dire que j'ai avancé avec mes résultats, avec mes sollicitations, et en fonction, bah voilà, j'ai fait évoluer aussi mon boulot derrière. Et ouais, il y a juste un moment où il fallait juste franchir le pas, dire bah hop, le cabinet c'est fini et je fais que de la course à pied. Et après, est-ce que si je fais que de la course à pied, je vais y arriver, tu vois? Parce que dans la tête, c'est différent. Tu vas plus, tu vois, t'es, la vie d'athlète, c'est compliqué à comprendre pour la plupart des gens parce que tu ne fais que t'entraîner, tu fais que du sport. Mais en fait, tu fais pas que ça. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais ouais. Les gens voient que ça. Donc, il faut aussi, voilà, socialement, avec les autres gens, essayer de te sentir bien dans ce milieu-là, quoi.
Ouais, bien sûr. Et c'est dur, du coup, toute cette partie que les gens voient pas, trouver des sponsors, faire de la représentation, des activations. Mmh. Ça a mis du temps pour toi avant d'arriver?
Ben, non, pas forcément du temps. C'est juste qu'il faut l'organiser, organiser son temps. Et puis, ça faisait quand même 6-7 ans que j'étais au sein du Team Salomon. Donc voilà, j'avais comme.
T'avais ton petit nom.
C'était pas nouveau. Tu vois,
t'avais ton petit nom, ouais.
J'avais quand même pas mal de choses déjà à l'époque, sauf que je pouvais pas dire non, oui à tout. Et en fait, quand tu commences à faire des choses, en fait, c'est un peu un engrenage. T'en fais de plus en plus et après, t'as ton roulement et toute l'année, tu fais des activations et les sponsors viennent aussi à toi. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux. Après, ce qui est compliqué pour les gens à l'extérieur, c'est que ils se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a en amont pour en arriver là, quoi. Ouais. Tu vois, souvent, il y a des gens, ils te disent, toi, c'est cool, t'as juste à t'entraîner. Oui, en soi, c'est super cool ce que je fais. Je vis de ma passion, je vis de mon sport et je m'entraîne 1-2 fois par jour. Mais il y a tous les à côté que tu vois pas et qui sont difficiles à décrire aussi, tu vois.
Ouais, et puis avant.
Si tu te mets pas dans la peau du type, dans la vie où tu suis pas, tu vois pas forcément. Et t'as toute la fatigue que ça engendre derrière aussi. Et tu vois, tu vas faire 3 fois du sport dans la semaine, c'est pas ton sport qui va te fatiguer, tu vois. Alors que quand t'en fais, tu fais 10-12 séances dans la semaine, t'es fracassé. cette sensation-là, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la perçoivent vraiment. Tu as de la fatigue centrale parce que tu t'es usé.
Et elle s'accumule depuis plusieurs années.
Et qui s'accumule sur les années. Et puis même sur, tu vois, 1, 2, 3, 5, 6 semaines, les mois qui suivent, qui passent. Et puis après, tu as des coupures, mais tu te régénères, mais... C'est vrai que c'est pas toujours simple à décrire, en tout cas, mais il faut prendre un peu de recul quand on nous lance des petits pics comme ça, tu vois. Mais après, voilà, je peux pas me plaindre. Je vis de mon sport, je vis de ma passion.
Bien sûr.
C'est juste incroyable.
Mais c'est marrant parce que tu vois, comme je te disais juste avant qu'on commence, là, moi, je suis à plein temps, du coup, sur ce podcast et une formation que je fais pour devenir préparateur mental. Et tu vois, du coup, je parlais avec des jeunes qui me disaient, ouais, c'est facile pour toi, tu viens avec ton micro, tu poses des questions et tout. Et je leur dis, ouais, mais je suis à plus de 150 interviews, donc déjà, quand même de la répétition.
Ah ouais.
Puis pendant les 70 premières, j'avais pas un sponsor, je gagnais rien et c'était juste la passion qui me faisait y aller, tu vois. Et maintenant, ça change, tu vois, ça évolue. Et c'est vrai que des fois, ouais, les gens oublient le fait que.
Derrière, il y a du travail, quoi.
Ouais,
enfin, il y a eu du travail en amont.
Il y a toujours beaucoup de travail en amont.
C'est parfois des années, quoi, pour en arriver là.
Ouais.
Et c'est vrai que, que ce soit le sport ou ce que tu peux faire aujourd'hui ou dans d'autres domaines, hein. Quand tu vois quelqu'un briller, faut pas oublier qu'il y a des années et des années derrière de travail et de préparation et d'échecs aussi qui font partie de la préparation. Mais c'est pas juste un claquement de doigts, quoi.
Ouais. Et du coup, je voulais vraiment te parler plutôt de ce qui est à côté du trail parce que j'ai l'impression que tu fais plein de trucs en même temps, tu vois.
Ouais.
Tu fais des stages, à côté, j'ai vu que tu avais fait ton projet de film et ton asso avec Trail NC au Cap-Vert. Tu multiplies pas mal les différents projets. Et je pense que pour arriver à faire ça, faut bien s'entourer, tu vois. Du coup, moi, j'ai une double question. La première, c'est comment est-ce que tu t'organises et de qui tu t'entoures pour pouvoir réaliser tout ça?
Ouais, c'est vrai que j'ai une vie bien remplie, mais c'est aussi ce que je veux, quoi. C'est que, enfin, je veux faire du sport haut niveau, c'est une chose, mais je veux aussi partager et créer des choses autour de mon sport pour le faire grandir, pour le faire connaître, pour le faire évoluer. Et je pense que c'est important parce qu'on a un petit sport qui se professionnalise, mais il y a du travail, il faut, voilà, il faut le faire connaître, et plus il y a de gens qui connaîtront le sport, plus ça va le pousser vers le haut et plus on pourra en vivre et les futures générations pourront en profiter aussi. Donc ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, m'entraîner toute l'année pour pas le partager, en fait, ça a moins de sens.
Ouais.
Donc c'est ce que je recherche notamment sur les stages, c'est que j'ai juste envie de partager des bons moments avec des nouvelles personnes ou des personnes qui me suivent en montagne, et puis faire partager mon expérience, mes conseils, etc. Sans se prendre la tête, comme on disait tout à l'heure. Je fais pas quelque chose de trop scolaire. Les gens, ouais, ils sont là en week-end. Ils sont.
C'est
là,
ta mission, ça. Au-delà du trail, c'est ta mission.
Ouais, je sais pas si c'est ma mission, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me dis que, tu vois, si moi, je sais pas, je fais du vélo ou du VTT, si demain il y a des stages de VTT avec un athlète, tu vois, pour découvrir une nouvelle région, pour avoir des tips, puis juste partager un bon moment, ça peut être trop cool, quoi. C'est un peu prendre un cours sur un week-end, comme tu peux prendre un cours de surf, sauf que tu le fais avec un athlète et tout le week-end, et tu partages aussi autre chose que juste du sport, quoi. Parce que voilà, tu vas être, on court le matin pendant 4-5 heures, mais après, bah, il y a toute la journée, on est ensemble. Et c'est enrichissant pour moi aussi, tu vois, c'est pas juste je donne, c'est vrai, je reçois beaucoup aussi des gens. Et c'est vraiment un réel échange et partage. Et je suis toujours ravi, en fait. C'est marrant parce qu'avant les stages, j'ai toujours une petite appréhension à me dire, est-ce que les gens vont être cool, est-ce que ça va être sympa, est-ce qu'ils vont aimer, etc. Puis à la fin des stages, en fait, ils ressortent de plus en plus ravis et tout le monde est super content. Et puis en fait, moi, du coup, je suis super content aussi.
Ouais.
Mais avant chaque stage, là, ça fait 5-6 ans que j'en fais, j'ai toujours la même sensation, quoi. Ouais. Pas forcément un stress, mais me dire, tu sais, des fois, je sais pas trop si on a bien fait de le faire, ou si ça va plaire, tu vois, et si ça plaît pas, qu'est-ce qu'on fait?
Mais pas de sentiment de légitimité aussi à te dire des fois.
Les premiers, c'est... un peu, tu vois, à me dire, est-ce que vraiment je suis légitime de faire ça? Après, et puis maintenant, aujourd'hui, quand je vois l'engouement des gens, et puis ce que ça m'apporte, ce que ça leur apporte, et puis on passe toujours un super week-end en montagne, en fait, c'est juste ça. Donc là, je me pose même plus la question, ça. Puis le jour où plus personne voudra faire nos stages, bah, on arrêtera et on fera autre chose, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, voilà, moi, le sport, je le vois comme ça, quoi. Du partage, et ça passe par des stages, ça passe par des activations, ça passe aussi par des projets off, comme j'ai pu faire avec TrailNC en décembre au Cap-Vert, où il y a aussi une dimension solidaire, enfin, autre que sportive, où là, on est allé aider, j'ai traversé toutes les îles du Cap-Vert, et puis on est allé aider des ONG. On a fait des ramassages de déchets sur les plages. Le but, c'est de les mettre en avant et faire connaître au grand public, et de les aider sur des actions qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, on a aussi aidé des écoles et des habitants qui habitent dans des endroits un peu reculés.
C'est quoi le modèle économique de ça? C'est toi qui vas voir des ONG et tu leur dis, je vais vous aider à avoir un coup de lumière pour ça. Et c'est eux qui financent du coup une partie du voyage. Et toi, tu t'occupes de la partie communication et mise en lumière pour l'association, pour les actions?
Alors, non, pas tout à fait. Là, j'avais ce projet-là de traverser toutes les îles avec le bateau entre les îles. Et je me suis dit, bon, le scolaire, c'était assez simple parce qu'on l'avait déjà fait sur Santo Antão en 2019. J'avais traversé l'île, on avait amené des affaires scolaires, enfin, ça marche très bien, c'est assez simple pour nous à le faire. Donc là, on l'a refait sur l'île de Santiago, le Fogo, sur un groupement scolaire où il y a 150 étudiants.
Et tu ramènes des affaires scolaires pour 150 enfants?
En fait, ils nous ont fait une liste avec trois projets, un projet sportif, un projet scientifique, un projet artistique. Et ils nous ont dit, voilà, nous, ce qui nous manque, c'est ça, 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 ça. Donc, on a essayé de coller un maximum à leur demande. Donc, ça a été, je sais pas, il y avait un microscope, tu vois, des becs benzène, il y avait plein de trucs de chimie, tu vois, physique, des affaires de sport avec des partenaires, notamment GoSport, qui nous a laissé pas mal de choses. J'avais fait une cagnotte Ulule pour compléter. Et puis, on a eu l'Intermarché de Solière Sardière, qui est dirigé par un copain, qui était d'ailleurs mon pacer, qui nous a aussi laissé pas mal de produits d'affaires scolaires, type règles, okay. crayons, cahiers, etc. Donc, on a essayé de coller au maximum à leur demande. Et on a amené plein de choses. On a acheté un peu sur place aussi les trucs plus encombrants, comme une enceinte, un micro, ouais. une imprimante, un panier de basket, plein de choses. Donc ça, c'était trop vraiment le scolaire ouais. pour eux, pour le groupement. Et c'est marrant parce que je les ai revus là, hein, quand on est parti en training camp. Et elle m'a dit, ouais, c'est trop bien, on utilise tout. Les enfants sont trop contents. C'est trop génial. Et puis, les ONG, en fait, moi, je leur ai présenté le projet. Et je leur ai dit, voilà, nous, on a un budget pour vous de 500 euros. On vous finance 500 euros et on fait une action avec vous et on vous met en lumière, quoi. Ouais. On montre ce que vous faites, vous expliquez ce que vous faites. Et en plus, on organise quelque chose que vous faites déjà, mais c'est nous qui le payons, quoi. Enfin, en tout cas, ouais. on finance 500 euros, vous l'utilisez comme vous voulez sur ce projet-là. Voilà, donc, ça s'est passé comme ça. Et moi, derrière, j'ai cherché des partenaires privés pour financer mon projet.
Et c'est quel type de partenaire privé ? C'est des entreprises qui font ça sous forme de dons, c'est ça, associatifs ?
Ouais, il y a eu une fondation... Fondation Equestrio à Genève qui nous a financé une grosse partie. Et après, il y avait des marques de sport en fait qui me suivent la plupart tout le long de l'année. Et puis quelques petites entreprises qui nous ont donné quelques billets. Et en fait, le tout mis bout à bout, ça faisait un okay. beau projet. On avait un budget assez sympa pour pouvoir financer tout le projet et les acteurs du projet aussi.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot tout seul.
Ouais.
Comment est-ce que tu as trouvé le temps du coup ouais.
Ben, on devait le faire en fait. En 2019, j'avais fait le projet de Santantao et on devait le faire en 2020, ce projet. Et puis bon, il y a eu Covid, etc. Donc je l'ai reporté en 2021. Donc ça m'a laissé quand même 2020 pour remettre en route. Tu vois, ça m'a laissé un an vraiment plein pour bien écrire le projet, chercher des partenaires, etc. Et bon, bah, c'est vrai que tout seul. Je suis tout seul et pas tout seul. J'ai un peu les copains. J'ai un autre Bart, justement, qui habite ici et qui, okay. Qui m'aide beaucoup sur les projets et sur les stages au Cap-Vert, parce que c'est ses parents qui sont au Cap-Vert. Donc, on a un appui local. Mais pour la recherche de partenariat, c'est tout moi. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui ai piloté le projet. Après, chacun avait un peu des missions. Laurent, Intermarché, voilà, c'était plus le côté scolaire. J'ai géré aussi la cagnotte Ulule, les envois derrière, rechercher des partenaires, rechercher des petits trucs pour la cagnotte Ulule. Le plus dur a été le financement, hein, mais c'est le nerf de la guerre. Hein. Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer Charlotte d'Equestrio Fondation à Genève, qui est la femme d'un ami coureur et qui nous a permis de bien nous lancer, on va dire, dans le projet, parce que quand on avait financé le bateau, bah derrière ça. Voilà, tu te dis, le projet est financé à la moitié, est-ce que vous voulez nous aider ? Tac, 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 ça va mieux que quand tu commences à aller voir les entreprises où t'as zéro, quoi. Et puis les partenaires que j'avais, que j'ai tout le long de l'année ont aussi joué le jeu, donc une partie ont joué le jeu. Mais ouais, c'est du taf, quoi. J'adore ça, parce que c'est un fil rouge, enfin, ça a été un fil rouge, et au moins tu penses à autre chose. Ah, tu vois, t'es pas juste performance et focus sur tes courses. Alors, il faut faire gaffe derrière de pas y laisser trop de jus à certains moments. Mais t'as toujours un truc en tête, tu vois. Faut réfléchir à ce truc de fin d'année. Et moi, ça me stimule, quoi, d'avoir des projets comme ça sur plusieurs mois. T'es tout le temps en train de réfléchir à quelque chose, à penser à quelque chose. Et ouais, j'adore ça, quoi. J'adore avoir des moments tranquilles chez moi pour me reposer. Tu vois, là, Zegama, c'est dans 12 jours, je suis tranquille ici, ça va être trop bien. Mais par contre, derrière, ça va se réenchaîner. Après, je repars, stage, week-end, stage de préparation pour moi, puis course, puis vacances, puis tac. Et je suis là la moitié du temps, tu vois, chez moi. Mais c'est un rythme que j'adore.
Ouais, t'as besoin de te mettre beaucoup de choses dans la brouette pour que t'aies envie de la porter, de la faire avancer.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et même si j'arrive à un peu plus dire non à certaines choses des fois, puisque t'es obligé quand même de dire non par moment, j'adore que voilà. Puis ce qui est sympa, c'est que quand je suis en début de l'année, en janvier, je vous manque pas d'André, il est vide. Et puis en fait, ça se remplit tout de l'année. Mais il y a des événements, des trucs, on nous appelle pour faire des représentations, des activations, et c'est en fait ça vient en cours du temps et c'est pas écrit en début d'année. Ouais. Et ça, je trouve ça super chouette qu'il y ait cette part de surprise un peu, tu vois. Donc, sur le calendrier, je pose mes courses. Puis après, je me dis, oh, c'est vite, ça va être cool. Enfin, ça, je vais pas avoir grand chose. Puis en fait, ça se remplit février, mars, avril. Après, t'arrives en avril, t'as plus un week-end jusqu'en octobre. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est comme tous les ans, quoi, voire pire. Mais, okay. Mais moi, ça me fait avancer. Même si je sais qu'il faut que je fasse gaffe et que j'ai vite tendance à en faire beaucoup et du coup à laisser du jus un peu partout. Ouais. Mais ça, j'ai un peu appris avec les années à avoir des temps un peu plus libres et à dire non à certains moments pour pouvoir optimiser la récup.
Du coup, en dehors de la piste, mais plutôt sur la partie effectivement invisible, gestion de projet, relations avec les sponsors et tout, c'est quoi tes points forts en tant qu'être humain, en tant que bosseur, on va dire, ou chef de projet?
Bah, c'est cette rigueur-là, je pense, dont on a déjà parlé, quoi. C'est que j'arrive à me mettre à fond dans quelque chose. Si je me lance dans quelque chose, c'est que voilà, je donne pour que ça fasse jusqu'au bout. Et puis
donc là, ouais, si tu te dis OK, j'ai un nouveau projet, tu veux te faire une liste de 100 prospects donateurs par exemple, et tu vas tous les appeler un par un. Et...
Ouais, j'ai fait des listes de mails ou de boîtes à mailer, j'ai fait des mails et des mails et des mails. Enfin ouais, je pense que c'est une générosité dans l'effort entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que pas forcément l'effort physique, mais ou sur le terrain, mais un peu les deux, quoi. Je suis aussi généreux sur le physique que dehors pour faire avancer des projets. Donc, je pense que c'est une de mes forces, et de se mettre à 100% dans un projet, qu'il soit sportif ou autre.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.